Bonsoir, comment allez-vous ? Je suis très émue en visitant les vestiges de maisons romaines de voir à quel point elles ressemblaient aux nôtres. Avec les chambres, la cuisine, le salon, on se croirait chez Ikea, en beaucoup plus raffiné. Plus on recule dans le temps et moins on en sait, bien sûr, sur ceux qui nous ont précédés. Même si les tout premiers hommes connus restent très mystérieux, loin dans le temps ne veut pas dire loin dans le cœur. Je suis sûre que comme nous, ils s'inquiétaient pour leurs enfants, ils riaient d'une bonne blague, ils pouvaient être tristes de se sentir rejetés, ou bien ils vivaient mal l'injustice, ils pouvaient aussi avoir envie de prendre un chiot dans leurs bras s'il y avait des chiots, ou ils regardaient le ciel avec émotion. Ce n'est pas parce que ces humains-là n'avaient pas le téléphone qu'ils étaient diminués. N'oublions pas que ce sont leurs avancées qui ont permis les nôtres. Et peut-être qu'ils auraient encore bien des choses à nous apprendre.
Bonjour, je m'appelle Margot et je me demande si Lucie marchait sur ses deux jambes. Merci.
Alors,
Yves Coppens.
Oui, d'abord Margot, les descendants des ancêtres communs, c'est-à-dire des papas, mamans qui étaient à la fois ancêtres des grands sages et puis des humains, il y a une dizaine de millions d'années, on fabriquait des chimpanzés, pré-chimpanzés et chimpanzés d'un côté, et puis des pré-humains et des humains de l'autre. Et je trouve que Lucie est considérée comme une pré-humaine, c'est-à-dire que pour s'adapter à son milieu qui devenait plus sec, elle s'est mise debout, ce qui est assez extraordinaire. Et donc, comme elle est debout, elle marche, en effet, sur ses deux pattes postérieures, sur ses deux jambes, plus ou moins bien. Hein. Pas tout à fait comme nous, pas de manière aussi fluide que nous.
Comme un ours ?
Parce que, de manière un petit peu chaloupée. Parce que Lucie continue à grimper. Alors évidemment, on ne grimpe pas, ou pas couramment en tout cas. Et donc, pour bien grimper, il faut aussi pouvoir marcher. Et on ne marche pas très très bien quand on continue à grimper un petit peu.
Les pieds qui permettent de grimper et d'agripper ne sont certainement pas les mêmes que les pieds qui permettent la marche à plat.
Oui, c'est d'ailleurs très extraordinaire de voir le squelette de Lucie, parce qu'il est composé évidemment d'un certain nombre d'os et d'articulations, et ces ossements varient en fonction du comportement, c'est-à-dire que la tête est posée sur la colonne vertébrale comme quelqu'un qui est debout, la colonne vertébrale a des courbures comme quelqu'un qui est debout, le bassin il est assez raccourci, assez large comme quelqu'un qui est debout, et qui doit porter l'ensemble des organes, l'ensemble du corps. Et à côté de ça, le fémur qui a l'allure de quelqu'un de debout a un genou qui commence à être celui de quelqu'un qui grimpe, et la cheville est celle de quelqu'un qui grimpe, et le pied est celui de quelqu'un qui grimpe et qui saisit avec son pouce opposable, comme celui des mains, et le membre supérieur, l'avant-bras et le bras, sont aussi très adaptés au grimper. Donc Lucie est une sorte d'amalgame, de mélange entre quelqu'un d'adapté à la marche sur les deux pattes postérieures et quelqu'un adapté au grimper, très, très habile, qu'elle devait pratiquer sûrement dans la journée pour échapper aux prédateurs, aux carnivores, et puis le soir pour dormir.
C'est pour ça qu'elle est précieuse, en fait, pour vous.
Ben, c'est la première fois, on a trouvé ça à plusieurs reprises depuis, mais c'est nous, c'est ma petite école, enfin les jeunes gens qui étaient autour de moi, et moi-même qui avons découvert ça dans les années, début des années 80. C'était la première fois.
Toujours modeste Yves Coppens, Lucie a été découverte un 24 novembre de l'année 1974. Quant à Yves Coppens, son dernier livre, Origine au pluriel de l'homme, origine d'un homme, est édité chez Odile Jacob. Allez, restons dans les origines.
Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai 11 ans et je voulais savoir si tous les mots avaient une origine. Merci de me répondre, au revoir.
Bonsoir Antoine, ça c'est vraiment une question pour la lexicographe que vous êtes, Marie-Hélène Drivaud, directrice éditoriale au dictionnaire Le Robert. C'est votre métier de chercher les origines des mots.
Ah oui, oui. Alors chaque être humain a un père et une mère, même si on ne les connaît pas. Bah, les mots, c'est un petit peu pareil. Ils ont tous des ancêtres, une origine, mais on ne la connaît pas toujours. Et il reste encore pas mal de mots d'origine inconnue ou obscure, pour lesquels on n'a aucune certitude, au mieux des hypothèses, mais parfois rien du tout. Et ça peut concerner des mots très très courants, hein, qui restent des mystères. Un mot comme blouse, botte, braise, camion, on ne sait pas du tout d'où vient un camion. Carcasse, on ne sait pas. Frôler, on ne sait pas. Requin, c'est un mystère très célèbre, puisque chacun y va de son hypothèse, mais on ne sait pas.
Ah, c'est drôle, ça.
Mais bon, heureusement, le plus souvent, on connaît l'origine. Hein, ouais. Et chaque mot a une histoire particulière qu'on peut retracer. Hein, c'est le rôle des dictionnaires étymologiques. Alors, pour les mots du français, on va dire qu'en gros, il y a plusieurs solutions. Alors, souvent, le mot vient du latin. Il a un ancêtre latin qui s'est transformé au fil des siècles et qui a donné un mot français. Par exemple, le latin « infans », qui ne parle pas, a donné « enfant ».
Ah,
scola a donné école, hein, qu'on reconnaît dans scolaire, etc. Bon, ça, c'est le cas d'un mot, ce qu'on appelle hérité. Après, on a le cas des mots empruntés, c'est-à-dire qu'on va aller voir dans une autre langue et on va prendre le mot qui va subir des transformations ou pas. Par exemple, à l'anglais, on connaît beaucoup d'emprunts à l'anglais, mais des fois, ils ne se voient pas. Hein. Bébé, ça vient de baby, on ne le sent pas comme un anglicisme. Hein. Chewing-gum, là, on reconnaît parce qu'il a quand même une tête un petit peu étrange. À l'italien, baldaquin, c'est un mot italien. Al dente, ça on le reconnaît bien. À l'arabe, il y a beaucoup de mots très importants qui viennent de l'arabe, hein, notamment chiffre et zéro, qu'on connaît bien. La gazelle, tout ça sont des mots qui viennent de l'arabe. Au latin, on peut emprunter des mots au latin et qui donc arrivent avec leur tête latine, comme médius par exemple. Oui. Bijou, c'est un mot qui vient du breton, donc là on va les emprunter, donc on va prendre à d'autres langues. Souvent aussi, on peut former un mot à partir d'un mot qui existe déjà en français. C'est-à-dire qu'on va soit dériver, c'est-à-dire qu'on va prendre un mot comme collège, on va former collégien. On va rajouter une terminaison pour en faire une autre catégorie de mots. Ou par composition, c'est-à-dire qu'on va prendre deux mots qui existent et on va en faire un troisième. On prend chou et fleur et on fait
chou-fleur.
On fait chou-fleur, on fait chemin de fer, on fait pomme de terre, etc.
Ah oui.
Donc ça, ce sont les façons les plus classiques d'origine, les origines les plus classiques des mots.
Donc voilà, pour répondre à Antoine, tous les mots ont une origine, même si on la connaît pas forcément.
Ah non, mais c'est le rôle des étymologistes et des lexicographes de chercher. Et des fois, il y a des mystères qui sont levés. Parce qu'on a trouvé, on trouve un nouveau texte qui éclaire tout.
Ah oui.
Le plus simple, c'est sûr, c'est le savant qui dit aujourd'hui, j'ai fabriqué un nouveau produit et je le nomme de tel nom. Donc là, on a une origine précise et sûre. Mais des fois, on est réduit aux conjectures.
Marie-Hélène Drivaud a travaillé dans l'édition 2020 du Petit Robert. Quand elle dit blouse, dont on ne connaît pas à l'origine, c'est pas le blouse, la mélancolie, la couleur bleue, c'est la blouse, la chemise.
Ma sœur, nous avons des cœurs si à moi et chaque coup que tu reçois ricoche et me frappe deux fois. Je tiens dans ma main ton poing serré et rien ne peut nous résister puisque nous l'avons décidé. Personne n'a jamais bien trop à la vie pour que ça puisse être permis.
Seul, qu'est-ce que tu crois, tu peux te reposer sur moi. C'est joli, c'est la dernière chanson de Clara Luciani, ma sœur.
Les petits bateaux sur France Inter.
Vous connaissez le principe des petits bateaux, des enfants nous posent des questions et nous, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Louis, j'ai 8 ans et j'aimerais savoir comment les Américains font pour contrôler tout ce qu'on fait sur Google. Au revoir.
C'est vrai qu'on se le demande, Luce. Merci, Michel Baudouin-Lafont, vous êtes professeur d'informatique à Paris Sud, entre autres.
Alors, Luce, je ne sais pas s'il contrôle tout ce que l'on fait, mais en tout cas, il surveille certainement pas mal de ce que l'on fait sur nos ordinateurs. Google, qu'est-ce qu'on fait ? On tape une requête, quelques mots, et puis on a une liste de réponses. Alors, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? La requête est allée sur les ordinateurs de Google, qui ont stocké tout un tas de connaissances, et il nous fournit la liste de réponses. Maintenant, ce que l'on ne sait pas, c'est que Google sait d'où vient la question et de qui vient la question. Parce que lorsque je vais envoyer plusieurs fois des questions de mon même ordinateur, il va savoir que ça vient du même ordinateur. Parfois, je suis même identifié comme utilisateur de Google. Et donc, il va savoir que ça vient de la même personne. Et donc, deux personnes qui font la même requête sur Google risquent d'avoir des réponses différentes. Parce qu'elles vont prendre en compte les recherches que l'on a fait auparavant. Google sait sur quelle réponse je clique, parce que lorsque je clique sur un lien dans la liste de réponses, je ne vais pas directement sur la page. On ne le voit pas, mais en fait, ça passe par les ordinateurs de Google, qui ensuite me renvoient sur la page destination. Donc Google sait non seulement les réponses qu'il m'a données, mais celles que j'ai choisies. Ce qui lui permet, après, d'affiner ces informations qu'il a sur moi pour me donner des réponses plus personnalisées. Et puis ça va plus loin que ça, parce que Google vend des publicités qui sont mises sur des pages partout. Et à chaque fois que l'on clique sur une de ces publicités, pareil, Google est informé. Et si ça vient de mon ordinateur, il va savoir que ça vient de la même personne qui a fait une requête avant pour savoir s'il y avait des avions pour aller à New York. Alors il y a des tas de technologies de pistage, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais finalement, pourquoi tout ça ? Alors il y a deux raisons. Il y a une première raison qui est légitime, je dirais, c'est que Google veut nous donner un service de plus en plus personnalisé. Si je tape le mot « avocat », est-ce que je cherche des renseignements sur un conseil juridique ou est-ce que je veux savoir comment planter un avocat dans mon jardin ? Peut-être que des requêtes que j'ai faites auparavant lui donneront une idée pour l'un ou pour l'autre. Donc la personnalisation, c'est effectivement quelque chose qui permet de donner un service plus satisfaisant, même si ça crée aussi un peu ce qu'on appelle la bulle Internet qui fait qu'on ne voit que ce que Google ou Facebook veut bien nous montrer. Puis la deuxième raison qui, je pense, est moins satisfaisante, c'est que Google ne fait pas payer son service. Tout le monde a accès à Google sans payer.
Oui.
Donc pour gagner de l'argent, ils vendent des publicités. Et pour vendre des publicités, il faut aussi les cibler vers les utilisateurs. Donc il faut avoir beaucoup d'informations sur, à nouveau, les préférences des utilisateurs. Moi, personnellement, je préférerais payer quelques euros par mois à Google pour financer son service et ne pas avoir toutes ces publicités ciblées qui nous envahissent. Mais bon, ça, c'est mon choix personnel.
Est-ce que quand quelqu'un ne nous fait pas payer quelque chose, il nous le fait en fait toujours payer d'une manière ou d'une autre ? Ce n'est qu'une question. À propos de questions, voici le numéro de notre répondeur. 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Paul. J'ai 11 ans et je voudrais savoir pourquoi quand on prend la douche, on a souvent envie de chanter. Au revoir, merci de répondre à ma question.
Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 12 ans et je voudrais savoir s'il y a une explication scientifique au fait que l'on chante sous la douche. Merci.
Paul et Pauline, c'est le hasard qui fait bien les choses. Une explication scientifique, dis-tu Pauline, donc nous avons invité un scientifique, enseignant-chercheur, titulaire de la chaire Musique Cognition Cerveau à l'Université de Bourgogne et auteur des bienfaits de la musique sur le cerveau chez Belin, Emmanuel Bigan. Que pensez-vous de ces questions de Paul et Pauline ?
C'est des questions adorables, Paul et Pauline, à chanter sous la douche. Effectivement, c'est un des grands plaisirs qu'on s'octroie facilement. Alors pourquoi ? L'explication qu'on peut donner d'un point de vue scientifique, on n'a jamais fait des expériences réelles sur cela, mais elle est facile à comprendre. Quand on est heureux, on a envie de chanter. Ça vous arrive même si vous n'êtes pas sous la douche. Quand on prend une douche, en général, ça détend parce qu'on est bien. Et il y a une autre explication, c'est que on aime bien chanter si on est seul. Mais quand il y a du monde, on est un petit peu embêté. Et alors sous la douche, le plus souvent, on est seul. Ça arrive qu'on soit pas seul, mais le plus souvent on l'est. Et il y a un autre avantage, c'est que la douche, ça fait du bruit. Donc même s'il y a des gens dans les pièces à côté, ils nous entendent pas parce que le bruit masque. Donc tous ces facteurs-là, ça fait qu'on est bien sous la douche pour des tas de raisons. On a envie de chanter et il y a personne qui nous embête, donc on chante. Et c'est aussi simple que cela. Mais si t'étais toute seule ou t'étais tout seul dans la campagne, tout content, tu chanterais parce qu'il y a que les oiseaux qui t'entendent et eux, ça les gêne pas si tu chantes pas exactement très très bien comme un chanteur professionnel. Donc je pense que c'est ça. L'explication. En tout cas, c'est celle que je te propose.
Sous la douche ou pas, de toute façon, c'est bon de chanter.
Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. I'm floating around in ecstasy. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you.
Quelle pêche donne cette chanson, même un dimanche soir, Don't Stop Me Now, par le groupe Queen. Merci Jean-Baptiste Audibert. Queen, enfin Freddie Mercury, qui est mort un 24 novembre 1991. À propos de mort, voici Philippe Charlier, bien vivant, mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi je dis ça.
Bonjour, je m'appelle Gabin, j'ai 10 ans. Je voudrais savoir comment le foie et le pancréas tiennent dans le corps. Merci, au revoir.
Bonsoir Gabin. Philippe Charlier, vous êtes médecin légiste, vous êtes archéo-anthropologue. Je pense que vous pouvez facilement répondre à Gabin. J'ai envie de rajouter une question, même si j'ai un peu honte. Où est alors le foie est à droite et le pancréas, où est-il ?
Le pancréas, il est profondément enfoui au centre de l'abdomen et il est calé juste devant les vertèbres lombaires.
Il est au fond du fond.
Il est au fond du fond, on ne peut pas le palper. Vous avez la tête qui est à droite, vous avez le corps qui est au milieu et vous avez la queue qui est à gauche. Et juste après ou derrière la queue, vous avez la rate qui se développe. Et juste autour de la tête du pancréas, vous avez le duodénum qui est la première partie de l'intestin grêle. Alors on le voit, on le recherche évidemment en autopsie, on le voit également sur l'imagerie quand on fait un scanner abdominal. En radiographie, on ne peut pas le voir, sauf s'il y a des calcifications ou des calculs bloqués au niveau du pancréas. Alors pour répondre à ta question, Gabin, comment est-ce que le foie et le pancréas tiennent dans le corps? D'abord, ils tiennent parce qu'ils sont maintenus par tous les organes tout autour, par la peau qui est tendue juste devant. La peau, elle ne tient pas grand-chose. C'est surtout les muscles de la paroi abdominale, d'où l'intérêt d'avoir une bonne paroi abdominale. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir une hernie ou on va avoir une éventration. Ce n'est pas le foie qui va sortir, ce n'est pas le pancréas, ce sont les intestins généralement ou le gras qui entoure les intestins. Le pancréas et le foie, ils sont aussi maintenus par autre chose, ce sont les vaisseaux qui les irriguent. Ces vaisseaux qui fournissent un sang artériel et qui font repartir un sang veineux, ces vaisseaux également qui vont permettre de passer à l'intérieur du foie, de filtrer le sang, de déposer des choses, notamment du glucose, qui va être stocké sous une autre forme qu'on appelle le glycogène dans les cellules du foie, les vaisseaux biliaires également, puisque la bile est sécrétée par les cellules du foie, va être sortie du foie par des vaisseaux et qui va ensuite être stocké dans la vésicule biliaire, juste sous le foie. Tous ces vaisseaux, toute cette organisation architecturale permet au fur et à mesure de tenir un peu comme une toile d'araignée les organes.
Comme un filet à provision.
Oui, c'est une autre image, comme un filet à provision. C'est plus domestique, tout à fait.
Maintenant qu'on n'a plus de sac en plastique, on a des filets à provision, autrefois.
C'est très bien. Il y a également des ligaments suspenseurs. Pour le foie, on a un ligament qui est situé juste au-dessus, qui coupe d'ailleurs la toute petite partie gauche de la grande partie droite du foie. Et puis on a également un autre ligament qui est ce qu'il nous reste de cette partie interne du cordon ombilical qui nous reliait à notre maman. Donc il y a une petite partie qui va de notre cordon ombilical à notre foie et qui persiste de façon infime. Oh, elle tient plus grand-chose, mais c'est un souvenir qu'on tient de notre vie fœtale.
Le docteur Philippe Charlier a écrit « Quand la science explore l'histoire, médecine légale et anthropologie » et c'est édité chez Talendier. Les petits bateaux sont terminés pour ce soir. Nous nous retrouverons dimanche prochain à 19h30. Nous, c'est Marie-Claire Matoute, Louis Audebert, Marjorie Devoucou, Eliane Gérard, Noël Bréham. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceinter.fr et rester avec nous, ou plus exactement avec Denis Chessou pour La Tulle, mon petit loup.